Éric Venet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la gestion collective chez Montbleu Finance. On va revenir avec vous sur la situation sur les marchés financiers. On s'était vu en début d'année, hein, dans un autre contexte, il est clair, que les temps ont changé. Alors pour beaucoup d'investisseurs, c'est vrai que le début d'année 2011 se passait bien, c'était une année de reprise. Bon, on en est bien sûr très loin aujourd'hui. La rupture pour vous, c'est vraiment ce qui s'est passé au mois d'août, cette peur, panique sur les marchés?
Oui, il y a eu deux choses. Il y a eu déjà au niveau macroéconomique, hein, le ralentissement. D'abord, par rapport au début d'année, on s'est aperçu, notamment aux États-Unis, que la crise a été plus profonde, dixit les statistiques aux États-Unis, la reprise moins vive, et qu'on était quand même sur une croissance, peut-être pas de 4% comme on avait au début d'année, mais 3% et quelques aux États-Unis. Pour moi, c'est important aux États-Unis parce que c'est le moteur, c'est le poumon, hein, de la finance. Après, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu quand même l'excès du quantitative easing, c'est-à-dire la surchauffe des matières premières, qui a déjà bien ralenti les industriels par la hausse des prix. Vous avez ensuite, deuxième choc, le choc du Japon, qui est quand même, pas en termes de puissance de feu, mais de désorganisation de l'industrie, a ralenti pas mal la croissance, toujours aux États-Unis. Et puis après, le dernier choc qui tue, c'est effectivement la crise financière ou le krach, le krach boursier au mois d'août, qui là a miné le moral des consommateurs et a amené un attentiste chez les industriels. Juste un attentiste, parce que on n'est pas forcément là dans une profonde récession. Ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, on est entre deux eaux. Certes, la croissance a rediminué. On est maintenant plutôt vers un tour de 1,5-2% aux États-Unis, et d'où une croissance plus molle, mais pas du tout les scénarios noirs qu'on a pu voir au mois d'août. Donc première phase, hein, par rapport à votre question. Et la deuxième phase, c'est effectivement une espèce de cercle autodestructeur infernal de la finance qu'on n'a pas su, un, les politiques, deux, les financiers résoudre. On a laissé le système tourner en rond et donc ça nous a amené à cette crise bancaire. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas de raison, simplement je pense qu'il ne fallait pas laisser comme ça cette spirale autodestructrice.
C'est-à-dire que quelque part, on parlait du quantitative easing, de tout cet argent quelque part qui a été distribué mais n'a pas été investi, n'est pas arrivé jusqu'à l'économie réelle.
Ah oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que ça a simplement permis de soulager un peu le système financier, soulager les anticipations, mettre un petit peu d'inflation dans la machine, donc repartir tranquillement avec nos problèmes. Par contre, ça n'a absolument rien changé quant à l'importance de la macro. Enfin, de toute façon, les théoriciens sont clairs, c'est-à-dire que quantitative easing, c'est simplement permettre d'apporter un petit peu de punch un peu dans les anticipations, moyennant un peu plus d'inflation, mais pas de croissance davantage. Par contre, c'est clair que ça désorganise un peu par les matières premières, les industriels.
On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est pas le moindre des paradoxes. D'ailleurs, vous parliez des États-Unis, que les difficultés aujourd'hui, elles sont dans la zone euro. Et c'est la zone euro qui est montrée du doigt. On pourrait dire presque les États-Unis, ça va presque bien, entre guillemets.
Oui, alors c'est la prochaine étape, faut pas s'y tromper. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé entre nous, je ne suis pas sûr que c'est entre nous, mais bon, il y avait un problème, effectivement, européen. On n'a pas su le résoudre à temps ou convaincre le marché qu'on mettait les moyens, c'est plutôt ça. Donc, on en est en train de le faire. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence. C'était pour moi une évidence le 21 juillet, mais les politiques n'ont pas su le vendre. Je dis pas que je pense qu'ils ont été vraiment à la hauteur. On n'a pas su le vendre au marché. Du coup, on est arrivé dans cette crise-là. Et on est en train de résoudre ça, mais le deuxième round, c'est aux États-Unis, c'est évident. Mais là aussi, on va résoudre le problème aux États-Unis. J'ai pas de problème là-dessus. Le troisième, ça sera le problème chinois, mais c'est pour l'année prochaine.
c'est très très joyeux comme perspective.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin pas forcément pentu, mais vers la résolution de tous les problèmes qu'on a traînés pendant des années. Malheureusement, on est sur la bonne route, sauf qu'on n'a que des coups à prendre. De temps en temps, hop, on trébuche, on repart. Donc après, il faut juste ne pas se laisser entraîner et trébucher et débouler trop vite. On va franchir les étapes les unes après les autres. Il faut simplement que la machine ne s'emballe pas, qu'on ne soit pas dans ce microcosme financier où on s'affole un peu, ou paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut absolument rembourser, mais à ce moment-là, vous mettez une telle pression d'austérité que vous ne pouvez plus rembourser. Enfin voilà, il ne faut pas tuer la croissance. Et pour ne pas tuer la croissance, il faut donner du temps au temps et surtout de la vision, de la visibilité. C'est ça, la première chose.
On parle de la zone euro avec bien sûr le cas grec. Il y a deux versions hein, sur le cas grec. Il y a ceux qui disent d'ores et déjà, et de voir depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, que la Grèce ne pourra pas rembourser. Donc, que la Grèce est en défaut ou va faire défaut. Il y a le discours officiel qui dit bah, il va peut-être falloir un peu plus, que les créanciers payent un peu plus. Mais on se dit que derrière tout ça, il y a une crise gigantesque dans la zone euro, peut-être.
Non, il n'y a pas de crise gigantesque. Il y a juste un problème d'inadéquation des structures au problème du moment historique. Enfin, tout le monde sait que l'histoire est en mouvement et que tout change à une allure très très folle et qu'on est tous maintenant très interdépendants, mais à une vitesse, j'allais dire, quasiment de la lumière. Et donc, il faut absolument qu'on s'adapte. Sauf que, on a de la chance d'être des démocraties et que ces démocraties, ça ne se fait pas comme ça, on ne change pas les structures. Il est évident que dès lors que l'Allemagne a accepté une solidarité, c'était il y a 2 ans, hein, la crise grecque, ou le début, ou plus d'un an et demi. Ça va nous amener jusqu'à un contrôle budgétaire de chacun des États. Sauf que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, et encore si ça se faisait, en vertu de quelle légitimité les hommes politiques peuvent le faire. Donc ils ont construit des machines, hein, voilà, et progressivement, on va vers cette coordination budgétaire. Alors ça passe aujourd'hui par, d'abord, un, la résolution de la crise bancaire, pour moi, qui est juste la première étape, c'est-à-dire s'apercevoir que le système bancaire est vraiment bien solide pour pouvoir éventuellement supporter quelques défauts ou quelques haircuts d'emprunts souverains européens. Ensuite, régler le problème de la Grèce et puis à traiter à plus moyen terme la coordination de politique budgétaire. Voilà, c'est tout. Et on est en train de le faire. Hein.
Alors, du côté des investisseurs, on sent bien qu'il y a effectivement ceux qui pensent qu'il y a que les politiques vont y arriver et qu'il y a peut-être du coup des opportunités. Et puis il y a ceux qui se disent, vu comment ça n'a pas fonctionné la dernière fois, est-ce qu'il n'y a pas à nouveau un risque et qui du coup sont en dehors de ce marché?
Oui, alors la problématique des gérants, c'est pour ça que c'est aussi compliqué, c'est que c'est un peu le tout l'un tout l'autre, c'est-à-dire que où on fait confiance à l'homme et qu'un voilà, on s'en sort et parce que on n'a pas le choix et que on est là pour avancer et auquel cas on trouve les solutions, ou de toute façon c'est une machine infernale qui nous dépasse, on se fera broyer, ainsi de suite. Vous avez compris que c'est pas du tout notre cas. On essaye d'expliquer à nos clients qu'il y a des solutions à tout, qu'il y a toujours une dette, il faut juste se mettre en bonne harmonie avec l'environnement, le reste du monde, et à partir de là, on va retrouver des solutions. Mais pour nous, on est en train de régler les problèmes.
Ça veut dire que pour un investisseur, il y a vraiment deux typologies d'investisseurs. Celui qui était investi sur les marchés, qui quelque part, s'il n'est pas sorti ou s'il n'a pas pu bouger, il est là. Celui qui éventuellement se disait « je vais y aller » et puis qui a vu ce qui s'est passé et qui hésite encore, mais celui-là qui aurait du cash aujourd'hui, qui serait un chanceux, alors, il fait quoi?
Oui, il rentre, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je crois que c'est même pas là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on sache maintenant que ça sera plus comme avant. C'est-à-dire que d'abord, une obligation souveraine peut avoir des problèmes, on l'a vu, c'est quand même un gros choc. Hein. C'est peut-être le point de départ de la crise du mois d'août. Le deuxième point, c'est qu'on est dans un monde tellement évolutif qu'on ne peut plus avoir des pôles de sécurité absolus. Même si vous êtes un compte sur livret dans une banque, à l'hypothèse, on a vu que lors d'une crise systémique bancaire, on peut avoir peur. Je dis juste « on peut », mais pour moi, il n'y a pas de risque. Donc on voit qu'il y a des échelles de risque, ça. Et donc, son épargne, il faut qu'elle soit gérée de façon très réactive et en acceptant de toute façon des risques, parce que de toute façon, il y en a, quel que soit, à part le mettre sous un matelas et encore se le faire voler. Je veux dire, il y en a. Donc après, il faut juste fractionner ses risques, j'allais dire, mais c'est même plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, un exemple, on a un fonds cordé qui est défensif, on était à 50% en obligations, et les obligations, ça a été le jeu de massacre pendant l'été. Plus personne n'en veut, donc vous retrouvez avec une cotation à moins 20, et donc vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en sécurité, pas du tout. En fait, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la crise en finance est telle que, de paroxysme, que vous avez l'augmentation des spreads, que personne ne veut ni acheter ni vendre, et vous avez une dévalorisation de votre titre. Donc ça veut dire qu'il faut avoir plus de temps et reconsidérer son échelle de risque, en fait. Mais c'est vrai qu'il est temps, à mon avis, de se remettre sur le marché, peut-être plus en action que qu'en obligations qui vont mettre un certain temps. Je parle des obligations à yield, bien sûr. Faire du bund à deux, enfin, aucun intérêt, à mon avis. Mais voilà.
Merci, Eric Venet, d'avoir fait le point avec nous sur cette situation particulière. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est extraordinaire, on pourrait
historique.
Dire, historique sur les marchés. Je rappelle que vous êtes responsable de la gestion collective chez Montbleu Finance.
Merci à vous.